Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours, l'introduction à la plateforme universelle Windows 10, le guide du développeur pour ce qu'on va appeler pendant ce cours UWP, Universal Windows Platform. Je m'appelle Sébastien Pertus, je suis technical evangelist chez Microsoft France. Mon Twitter, @SébastienPertus, vous pouvez toujours me tweeter pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et aujourd'hui, je co-anime, j'ai l'immense privilège de co-animer cette session avec Jean-Sébastien.
Bonjour à tous, et bien on travaille dans la même équipe, donc je suis également évangéliste technique chez Microsoft. Voilà, je m'occupe de la relation technique sur, on va dire, le développement d'applications clientes. Voilà, on verra un petit peu ce que ça couvre. Et il faut également me suivre sur Twitter, @DupuisJS.
Et comme on est un peu à la bourse sur Twitter par rapport à nos compagnons, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, donc Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va parler un petit peu de cette nouvelle plateforme qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, avec notamment l'arrivée de Windows 10.
Tout à fait. Alors, on va parler donc de convergence. Alors, tu sais qu'on avait déjà commencé un petit peu en termes de développement à commencer à créer une convergence au niveau des OS depuis l'arrivée de Windows 8 et de Windows Phone 8. Voilà. L'idée, c'est qu'on savait déjà faire un certain nombre de choses au niveau kernel. Entre autres, on avait IE qui était également partagé entre Windows 8 et Windows Phone 8. Mais voilà, en termes de développement, on restait sur deux développements séparés, deux packages qu'il fallait aller déployer sur deux stores différents. C'était quand même pas la panacée. Avec Windows 8.1, on a amélioré un petit peu les choses. On a commencé à créer une notion d'application universelle. Mais c'était surtout de la réutilisation de code, on va dire, entre deux projets. On restait sur deux projets différents et on avait du code qui était partagé entre 8.1 côté phone, 8.1 côté desktop. Mais on restait quand même sur deux packages à la fin et deux stores différents, ce qui était problématique. Avec Windows 10, aujourd'hui, c'est quand même plus simple. On a la possibilité de créer réellement une application universelle, au sens on développe un seul et même code. Et ce code, on va pouvoir donc le recompiler et le pousser sur un store unique et le déployer sur l'ensemble des plateformes. Alors, on va voir un petit peu ce que couvre pour nous l'ensemble des plateformes et l'ensemble des OS, mais voilà, un seul code commun pour l'ensemble des périphériques qui seront équipés de Windows 10.
Alors, on parle d'un seul code commun, et c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on a de plus en plus de devices, de plus en plus de périphériques, de plus en plus de taille d'écran. Juste un petit aperçu de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, qu'on a du téléphone à la phablette en passant par le PC portable, le PC bureau et des choses qui vont arriver comme le Surface Hub, votre Xbox et ce dont on a tous entendu parler et qui nous fait un peu tous rêver, le fameux HoloLens. Tout ça fait partie d'une grande famille que l'on va voir aujourd'hui. L'idée c'est quoi? C'est de dire finalement, vous avez plein de périphériques, on va les diviser en familles pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de regrouper tout ce qui est IoT, Internet of Things, dans une famille, tout ce qui est mobile dans une autre, tout ce qui est PC, qui est une grande famille aussi. La Xbox, le Surface Hub et le HoloLens sont des familles à part entière, sont vraiment des devices bien particuliers. Mais globalement, trois familles principales et trois autres qui sont plus un peu plus rare, mais qui existe.
Et on va voir que ça va avoir son importance. Et alors, on ne parle pas donc de système d'exploitation commun, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul système d'exploitation Windows 10 qui va s'exécuter sur l'ensemble de ces périphériques. C'est juste que, pour être tout à fait précis, on a créé un cœur qui est commun. On va revenir un tout petit peu dessus, mais ce cœur commun a été développé donc par une équipe chez Microsoft. Et finalement, ce cœur a été proposé aux différentes équipes qui développent après les systèmes d'exploitation. Donc Windows Mobile, maintenant, on ne parle plus de Windows Phone, Desktop, Xbox. Donc on met à disposition ce cœur commun. Et après, ils vont créer un OS qui va être spécifique par ligne produit, on va dire, par famille. Et on va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure pour expliquer ça. Mais en tout cas, ce n'est pas un système d'exploitation unique. C'est vraiment un cœur commun et des systèmes d'exploitation qui sont faits après pour chaque famille.
Alors, ce qui est super important de bien comprendre, et ça j'insiste là-dessus, c'est que c'est un cœur, c'est un SDK, c'est un outil de dev, c'est un store, c'est une interface qui s'adapte. Vraiment, on est dans un système où on essaye vraiment de mutualiser le plus de choses pour justement alléger les charges de développement et avoir quelque chose qui soit facilement réutilisable. C'est vraiment un leitmotiv aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un OneMS partout. Alors, petit rappel, je vous avais souvent vu ce genre de slide, il a un petit peu évolué depuis la dernière fois. Alors, petit rappel de comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez toujours bien, le système d'exploitation qui est vraiment la couche basse. Quelque chose d'historique qui est le framework.net qui fonctionne toujours sur des architectures Windows avec des processeurs 86 et 64 bits avec des technologies qui existent qui sont WPF, WF, MFC pour faire du C++. Mm-hmm. Tout ça continue évidemment à fonctionner parfaitement et c'est continué à être soutenu et à évoluer. Avec Windows 8, on a eu l'émergence de ce qu'on appelle les applications store. Aujourd'hui, ça a encore évolué. Ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des applications store comme on le faisait en XAML et en HTML, mais on appelle ça, aujourd'hui, on appelle ça la plateforme universelle UWP. Donc, on redira cet acronyme plusieurs fois, je pense, pendant ces sessions, mais sachez que ça veut dire plateforme universelle Windows. Et tu vois qu'il n'y a pas marqué Windows 10. Hein. C'est vraiment la plateforme Windows.
Exactement. Voilà.
Et une nouveauté qui va arriver, et ça, je sais que tu nous en parleras, JS, ce qu'on appelle les bridges. Alors ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Les bridges iOS, Android, qui ont déferlé la chronique presse numérique, on va dire, et deux bridges un peu moins, qui ont un peu moins fait parler d'eux, mais qui sont tout aussi intéressants, qui sont Web et Win32 Bureau, donc Web Hosted Web Apps, les applications embarquées, et Win32 qui est le projet Centennial, qui est le nom de code qui est associé. Donc voilà un petit peu une cartographie de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut développer sur la plateforme Windows, suivant la famille de périphériques que vous attaquez, que vous visez. Bien, alors, on a dit que ce n'était pas que Windows 10, pourquoi ?
Alors, donc, on va développer donc, une application universelle, et cette application universelle repose donc sur le cœur commun dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même des familles de produits, mais toutes ces familles de produits reposent donc sur ce cœur qu'on appelle Windows Core. Et sur ce Windows Core, on a donc cette plateforme universelle, Universal Windows Platform, et donc il y a un jeu d'API qui va être commun et qui va être disponible sur l'ensemble de ces familles. Et donc, on va pouvoir eh bien, développer son application et reposer sur ces API communes. Ça veut dire qu'une fois qu'on a créé notre code, eh bien, on peut le diffuser sur HoloLens, sur de l'IoT. Donc, j'insiste sur l'IoT d'ailleurs. On a aujourd'hui donc, une Windows 10 qui est présente sur des cartes de prototypage type Raspberry Pi 2. Et donc, on va prendre exactement le même code que sur notre application desktop et on va pouvoir le positionner sur une carte de prototypage. Donc, c'est vraiment le même code. Mais, par exemple, si on est sur un téléphone Windows mobile, eh bien, on a des spécificités qui sont propres au téléphone. Par exemple, le fait de faire vibrer le téléphone, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs.
Ou la barre des tâches, en bas.
Voilà, par exemple. Mmh. Pareillement, si vous souhaitez avoir le bouton hardware et l'utiliser, c'est aussi quelque chose de très spécifique à la plateforme Windows Phone. Alors, ça veut dire que pour ces fonctionnalités additionnelles, on a des API additionnelles et on va utiliser ce qu'on appelle des extensions. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que dans votre projet, vous allez pouvoir eh bien, récupérer des extensions pour accéder à ces API additionnelles. Alors, ça ne veut pas dire que ce code, finalement, où je vais rajouter des API pour Windows Phone, je ne vais plus pouvoir l'utiliser pour desktop. Ça, c'est faux. Ça va fonctionner également sur desktop. C'est simplement, si je suis sur le téléphone, eh bien, je vais pouvoir profiter d'API additionnelles, ce qui est quand même assez pratique.
Alors, il y a une petite différence sur ces fameux platform extensions par rapport à ce qu'on faisait avant, qui était finalement des desdefines qui permettaient à la compilation de mettre du code. Là, on verra qu'il y a une petite différence qui est plutôt une exécution runtime, mais on y reviendra. Très bien. Alors, il y a tout un tas d'API.
Il y en a un paquet, donc ça va être un petit peu compliqué de voir ça tout de suite, mais promis, dans les différents modules, on va aborder certaines de ces nouveautés. Entre autres, on a Cortana, qui maintenant est disponible sur toutes les, sur desktop et sur mobile. Voilà, c'est plus réservé uniquement à mobile. Et il y a un certain nombre de nouveautés qui sont donc disponibles pour les développeurs pour interagir entre son application et Cortana. C'est assez pratique. On verra ça, il y a un module qui est dédié.
Il y en a un que j'aime bien, moi, c'est les cartes aussi.
Ça, c'est, voilà, il y a la cartographie. Il y a la cartographie qui permet du coup d'afficher même des cartes en 3D aujourd'hui. On a certaines villes qui sont supportées en 3D. Et on a le support de Ink, c'est-à-dire le fait de pouvoir eh bien, dessiner et surtout faire de la reconnaissance de texte qui a été saisi à la main, soit au stylet, soit à la souris, soit vraiment en mode tactile. C'est quelque chose qui était disponible sur desktop mais qui n'était pas disponible sur Windows Phone. Donc on voit bien que maintenant, ça s'est un petit peu homogénéisé. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir des applications qui profitent vraiment des mêmes API, peu importe la plateforme sur laquelle on est.
OK. Alors, on l'a déjà un petit peu dit, mais il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Quand on crée une application UWP, on ne vise pas forcément Windows 10, mais on vise vraiment la plateforme Universal Windows Platform. Ça, c'est important de le savoir. Si je fais un comparatio, c'est un petit peu comme le framework.net à l'époque. On visait une version du framework et on ne visait pas forcément un OS. Puisque si on remonte dans le temps, quand le framework.net est sorti, ça fonctionnait sur Windows Vista, ça fonctionnait sur Windows 7, ça fonctionne sur Windows 8 évidemment, mais on viser une version du framework 4.5, 4.6, 3.5 à l'époque. Et c'est pareil pour la plateforme UWP, puisqu'elle-même a sa propre version et elle se met à jour indépendamment de l'OS. D'accord ? Ce qui fait que du coup, eh bien, lorsque l'on va créer nos applications, on pourra mettre dans le manifeste eh bien, une version supérieure et inférieure sur laquelle on sait que l'on a testé eh bien, notre application et on sait qu'elle fonctionne. Voilà, donc ça permet d'avoir une indépendance vis-à-vis de l'OS qui est quand même assez agréable pour le développeur. Je te propose de faire un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les applications UWP.
Je t'en prie.
Alors, on va repasser sur ma machine. Et ici, alors je vais fermer un petit peu tout ça. J'ai déjà pré-lancé l'émulateur pour que ça aille un petit peu plus vite. Et ce que je te propose, c'est de lancer Blend. Alors, Blend, eh bien, ça a beaucoup évolué depuis on va dire, la naissance de Blend. Aujourd'hui, on a vraiment une interface qui ressemble énormément à Visual Studio. Là, je l'ai mis en noir pour qu'on différencie bien par rapport à mon Visual Studio qui sera un skin blanc. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment... un polish de Visual Studio à la mode Blend avec tous les outils qui permettent de créer des animations, etc. Et finalement, pour faire une application Windows 10, vous allez voir que c'est encore le plus rapide pour créer une application toute simple, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je vais faire une application blanche. On verra aussi qu'on n'a plus les templates qu'on fournissait avec Windows 8.1 et puis on reviendra là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment une application où il y a, ben finalement, il faut vraiment partir d'une feuille blanche.
C'est épuré, on va dire.
C'est épuré. Donc là, j'ai mon designer qui se charge. Et la première chose, puisqu'on est dans une application universelle, eh bien, tu vois qu'ici, j'ai mon designer sur lequel je peux choisir mon rendu. Donc là, en mode téléphone, mais je peux aussi me mettre en mode desktop pour avoir une surface 16:9. D'accord ? Donc ici, je vais descendre un petit peu, et voilà. Alors, pour faire ça, ce que je vais faire ici, eh bien, une des facilités de Blend, c'est de rajouter eh bien, des données, on va dire, de démo, qui va me permettre d'avoir une surface de design que je vais pouvoir voir à l'écran pour pouvoir designer mes éléments. Ça, c'est vraiment la grosse force de Blend par rapport à Visual Studio, qui s'adresse vraiment à des développeurs qui ont plutôt tendance à le coder, puisqu'à le faire par Blend. Je sais que ça prend toujours un petit peu de temps, donc là j'essaye de colmater. Donc ici je vais prendre mes éléments ici. Alors je peux rajouter des éléments dans lesquels je peux dire que la propriété 1 s'appelle name, je peux lui dire que son type, eh bien, ce sont des chaînes de caractères, que son format ça va être des noms, du coup il va me générer des noms aléatoires.
C'est pratique.
J'ai aussi une propriété ici qui est image, mais qui est déjà faite pour moi. Et après ce que je vais faire, je vais glisser-déposer cet élément là-dessus, et tu vois qu'il me dit tiens, je vais te créer un pivot. Alors c'est marrant, c'est que le pivot avec Windows Phone 8 et 8.1, on l'avait sur téléphone, mais on ne l'avait pas
sur desktop,
sur les applications Windows Store. Et bien aujourd'hui, comme on est sur une plateforme unique, et bien évidemment, on a essayé au maximum d'uniformiser les contrôles. Et chacun de ces contrôles fonctionne aussi bien sur la version téléphone Windows Mobile que sur la version desktop Windows Store. Voilà. Donc là, encore une fois, je sais que ça fige sur mon écran, mais c'est... je le sais, hein, c'est ma machine, je suppose, donc ça va arriver. Ça prend à peu près une dizaine de secondes avant que ça apparaisse. Souvent, j'ai mon designer qui me dit de recharger la page parce qu'il n'a pas bien compris ce qui se passait. Donc on va le laisser faire et on va y revenir.
Alors, est-ce que c'est l'outil principal du designer ou pas forcément aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ce qu'il y a de... Merci de combler mon espace-temps. Alors oui, c'est une bonne question. C'est un outil qui est principalement dédié au designer, mais on a quand même rajouté des fonctionnalités qui viennent de Visual Studio. Enfin, c'est plutôt Visual Studio sur lequel on a rajouté des fonctionnalités de Blend, ce qui fait que du coup, on peut voir le code source, il est indenté, il y a la correction syntaxique, on peut aller sur le code, il y a l'intellisense, donc on peut déjà faire beaucoup de choses dans Blend. Et vraiment, les outils sont en train de se rapprocher l'un de l'autre.
Donc c'est vraiment plus...
Allez, ouais. Donc ça je le savais, que le designer allait péter. Donc je vais recharger mon designer et normalement, donc on a réussi à combler, j'espère que ça va se passer, ça va fonctionner correctement. Voilà, ici tu vois j'ai mon interface et j'ai bien un pivot qui fonctionne sur desktop. Je vais le lancer pour te montrer bon, que c'est vraiment une application de test. Donc c'est pas non plus une application définitive on va dire, mais au moins ça permet de voir que l'on a un pivot qui est disponible sur, sur Windows 10. Le voilà. Et donc évidemment vous vous doutez que lorsque je clique sur chacun des éléments, tu vois, il y a déjà des petites animations par défaut que l'on peut évidemment personnaliser. Mais ce qui est bien, c'est que eh bien, j'ai un contrôle pivot qui fonctionne. Et si je lance ça sur téléphone, alors tu vois ce qui est bien, c'est que c'est le même code. Hein. J'ai qu'un seul projet. Hein. Ici, tu vois, j'ai qu'un seul projet. Et ce projet-là, je peux le lancer sur eh bien, émulateur. Mon émulateur. Donc je vais prendre celui-ci que j'ai déjà lancé à côté. Donc qui doit être ici. Donc je suppose qu'il va me le télécharger dessus. Donc il déploie, le voilà. Donc ça c'est un émulateur Windows 10. Hein. Donc vous avez plein d'émulateurs avec plein de définitions d'écran différentes. Donc j'ai choisi celui-ci et vous voyez que c'est exactement le même code et ça fonctionne pareil.
Donc Visual Studio est livré finalement avec les images voilà, qui vont bien pour pouvoir directement déployer tout ça dans l'émulateur.
Bon, bah, exactement. Allez, ça c'est juste une petite démo pour aller assez vite.
J'en profite pour vous dire que voilà, si vous voyez, ben, si vous voulez un peu plus d'informations après vraiment sur le design, il y a Michel Rousseau qui va développer un certain nombre de cours MVA également. Donc il ne faut pas hésiter à aller regarder voilà, ce qu'il produit comme, comme contenu. Et bien entendu, le designer va travailler aussi avec des outils ben, comme la suite Adobe. On a rajouté pour faire des sketchs, ben, pour essayer de commencer à créer un petit peu l'architecture, on va dire, de votre application. Vous avez pas mal de choses également qui existent sur PowerPoint. Donc PowerPoint est un outil pour le designer. Et puis après, effectivement, Blend, c'est pour le designer, pour les intégrateurs et également pour le développeur. Parce qu'on sait bien que voilà, on va de temps en temps un petit peu quand même dans Blend. Alors qu'on n'est pas spécialement des designers, pour aller entre autres faire des animations, c'est quand même beaucoup plus pratique.
C'est quand même pas mal. Ouais. Bien, on va parler alors, des interfaces adaptatives. Alors. L'adaptative design, on va beaucoup en parler pendant ce cours, il y a un chapitre complet là-dessus. On va juste faire un petit tour. Finalement, quand on dit qu'il faut qu'on s'adapte à chacun des écrans, eh bien, les écrans ne sont pas les mêmes, on a du 16:9, on a du mode portrait, du mode paysage. Eh bien, tout ça, il va falloir que l'on le design correctement pour que lorsque l'on redimensionne notre application, eh bien, automatiquement, elle se mette correctement à la taille. Donc, il va falloir que l'on travaille sur les mises en page, ce qu'on appelle le layouting, qui répondent à ce changement de taille. N'hésitez pas à utiliser les contrôles qui existent déjà dans la boîte à outils. Eux-mêmes se retaillent quand c'est nécessaire et eux-mêmes s'adaptent à la famille de périphériques que l'on vise quand on développe. Donc, vraiment profiter de ça. Mais ça n'aide pas, hein, il n'y a pas que ça. On utilisera aussi des composants qui sont par exemple les Visual State, qui existent déjà depuis longtemps, mais que l'on a vraiment fait évoluer pour pouvoir facilement passer d'un design à l'autre. Et si jamais vraiment, eh bien, ça ne suffit pas, on peut utiliser ce qu'on appelle des designs personnalisés qui permettront sur chacune des familles d'avoir vraiment un design qui est complètement différent. On verra des exemples là-dessus. Voilà un petit exemple d'un design adaptatif qui est Skype. Donc là, on voit la version bureau et la version phone. Et on voit qu'on a un portrait un en portrait et un en paysage. On voit que sur le paysage, eh bien, les boutons, je prends juste les boutons par exemple, les boutons et la petite image qui sont en bas à droite, tu vois, les boutons sont alignés, l'image est à droite. Et quand on passe en portrait, on n'a pas forcément la place de tous les aligner. Donc il y a un bouton qui est allé en dessous et la petite image est au-dessus. Voilà, donc on avait passé de une ligne à finalement trois lignes. C'est ça qui va nous permettre le design adaptatif. Et après, on a recentré l'image pour qu'elle soit au centre de mon élément.
Finalement, pour les amateurs de web et d'HTML, ça, les Visual State plus l'Adaptive Trigger, ça ressemble vraiment à ce qui existe avec les Media Query.
Exactement.
D'accord.
Et donc, on parlait aussi de design sur mesure. Donc là, un bon exemple, c'est le calendrier sur Windows Mobile et sur Windows 10. Vraiment, l'expérience est complètement différente parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations à mettre en valeur. Quand on est sur le mode bureau et quand on est sur le mode Windows Mobile, l'information est importante, mais elle est vraiment placée de manière différente. Et c'était compliqué de tout passer par des Visual State et des mises à l'échelle ou des changements de ligne. Donc là, on a vraiment deux designs qui sont complètement différents. Donc vraiment, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Bien, alors ça, c'est une phrase qui est assez vraie, enfin, en tout cas pour moi personnellement. C'est vrai que lorsque j'ai des applications, j'aime bien qu'elles marchent partout. Alors, un bon exemple, qui va arriver bientôt, c'est
Continuum. Alors Continuum, voilà, dans l'univers Microsoft, ça veut dire deux choses. On va avoir Continuum pour PC et Continuum pour mobile. Alors voilà, j'explique un tout petit peu la différence. La partie Continuum pour PC, c'est ce que vous avez par exemple sur une tablette Surface. C'est-à-dire que sur une tablette Surface, vous avez la possibilité eh bien, de supprimer le clavier ou de remettre le clavier. Et forcément, eh bien, Windows 10 va s'adapter à ce fonctionnement. C'est-à-dire que si vous êtes en mode clavier, bah, c'est plutôt que vous préférez une utilisation clavier-souris généralement. Donc ça veut dire que toutes les fenêtres, bah, toutes les applications vont basculer en mode fenêtré. Donc on va avoir vraiment un fonctionnement, non pas à la Windows 8.1, bah, ça va être plutôt un fonctionnement à ce qui existait sous Windows 7. Par contre, si j'enlève, on va dire, le clavier, je bascule en mode tablette. Et dans ces cas-là, toutes mes fenêtres vont basculer en mode plein écran, y compris le menu. On a donc un menu démarré qui, lui également, va prendre tout l'écran. Donc ça va être quand même une utilisation beaucoup plus adaptée au tactile. Donc ça va être vraiment Continuum pour PC, pour desktop ou pour tablette, on va dire. Et on a quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore disponible, qui va arriver avec les premiers téléphones Windows 10 mobile, c'est le fait de pouvoir prendre son téléphone et de l'utiliser comme un PC. Alors, comment ça marche? C'est que je vais prendre mon téléphone, on va proposer un petit boîtier, un petit hub, dans un premier temps, qui va nous permettre, par exemple, de brancher dessus clavier, souris, un écran HDMI, par exemple, et son téléphone. Et dans ces cas-là, eh bien, on va pouvoir utiliser son téléphone. Et vu qu'on est sur des applications universelles, si l'écran de télé, c'est un écran qui va être beaucoup plus grand que l'interface vraiment de son téléphone, on ne broadcaste pas son écran. Ce qui est vraiment diffusé, c'est l'application. Et vu que c'est des applications universelles, eh bien, sur l'écran cible, on va avoir une application qui va vraiment s'adapter à la taille de l'écran cible.
D'où l'importance de ce fameux adaptatif
design. D'où l'importance, effectivement, de l'adaptive design. Et on pourra même avoir deux applications. Une application qui tourne sur le téléphone et une autre application qui tourne sur le PC. Enfin, sur l'écran, pardon.
Sur l'écran.
Ce n'est pas un PC, on est bien d'accord, c'est un écran. Donc ça, c'est la première façon de travailler avec ce mode Continuum pour téléphone. C'est-à-dire que là, on sera en mode filaire. Mais bien entendu, ce qu'on propose également et qui va arriver, c'est le fait d'utiliser du Miracast et derrière, de pouvoir utiliser eh bien, un clavier en Bluetooth, une souris en Bluetooth, et de travailler vraiment sans fil, non pas sans filet, sans fil, et de diffuser son contenu sur un écran déporté.
Ok, super. Donc tout ça, ça va arriver incessamment sous peu.
Exactement.
Allez. Donc on a parlé d'adaptive design, donc je te propose de nous faire une petite démo de ce que peut représenter aujourd'hui une interface qui s'adapte.
On est parti. Alors, une grande démo fake dans le sens où c'est un PowerPoint pour le moment. Après, promis, je vous montre quand même une petite démo. Mais c'est pour vous expliquer vraiment le concept. Donc, on parle de code commun, on est d'accord. Mais par contre, le design, lui, n'est pas commun. C'est-à-dire que, vous avez vu, on a différents form factors. On a des périphériques qui vont donc commencer à 5 pouces. Et puis, les Surface Hub, qui sont des écrans 84 pouces, il va falloir également que son application eh bien, puisse s'adapter à ce contenu-là. Donc, si on regarde l'application Outlook aujourd'hui, eh bien vous pouvez voir que si je change la résolution de mon application, je vais avoir le contenu qui va s'adapter à cette nouvelle résolution. Donc c'est ça qu'on appelle de l'adaptive design. Et si je continue à baisser la résolution, eh bien finalement on va s'apercevoir qu'on est sur une résolution de type téléphone. Et donc c'est vraiment le même code qui aura été diffusé sur le desktop et sur le mobile. La grande différence, c'est simplement le design adaptatif qui va changer. Donc ça c'était pour la démo un peu fake, voilà, mais qui est plutôt parlante. Et je voulais vous montrer une autre application. Alors le design est maison, donc il ne faut pas trop m'en vouloir. Elle est là, chatoy. Alors simplement pour vous montrer ici, entre autres, un contrôle dont tu vas certainement nous reparler un petit peu plus tard, qui est un contrôle split view, qui permet donc de créer des bandeaux de navigation, on va dire à droite ou à gauche, avec ici un petit burger menu, mais ça n'a rien d'obligatoire. Alors le burger menu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un bouton qui ressemble à un hamburger. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a les deux tranches de pain et puis il y a le bacon au milieu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un burger menu. Mais le design de ce control split view, en fait, eh bien, il n'existe pas à la base. C'est-à-dire que c'est une page vierge et c'est vous qui choisissez vraiment ce que vous allez mettre dans ce bandeau de navigation. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche, et tu reviendras dessus, c'est vous pouvez voir quand je change la résolution, vous pouvez voir que eh bien, mon split view, il est passé ici d'un mode, on va dire, continu, inline, c'est-à-dire que j'ai sur la gauche la vue principale, sur la droite le bandeau. Je vais, quand je vais le diminuer, eh bien, je vais passer ici en mode compact. Et si je diminue encore la résolution, je vais avoir un mode où bah, je l'ai carrément caché et je bascule en mode overlay, c'est-à-dire que je bascule par-dessus la vue principale. Alors, au-delà du fonctionnement intrinsèque de ce contrôle, ce qui est intéressant, c'est que là, on a utilisé ce qu'on a abordé tout à l'heure, les Visual State et les Visual State Trigger. Et donc, l'idée, c'est qu'en fonction de la résolution de mon écran, je suis capable de changer dynamiquement les propriétés de mon interface, donc exactement comme des Media Query. Et donc, je suis capable de faire de l'adaptive design.
Très bien. Allez, je vais reprendre la même. Hop là, alors... Ok, donc merci pour cette démo Jean-Sébastien. Et on va parler maintenant d'autre chose qui s'adapte, c'est le code.
Voilà. Et oui.
Le code. On en a parlé tout à l'heure avec ce que tu nous as parlé tout à l'heure, donc les, j'ai repris le même slide, hein, donc les plateformes SDK.
Normal.
Et ces plateformes SDK, ce sont finalement des SDK que vous allez rajouter à votre application. Et ce qui est assez sympa, c'est que chacune des grandes familles va pouvoir utiliser donc Windows Core évidemment et son SDK, donc le SDK donc par défaut UWP évidemment, le cœur. Et après vous allez pouvoir rajouter chacun des SDK qui lui est propre. Mais ce qui est marrant, c'est que quand vous n'avez qu'un seul projet, si vous rajoutez le SDK pour le bureau plus le SDK pour mobile, que va-t-il se passer quand je vais déployer sur l'une ou sur l'autre des plateformes? Eh bien, les SDK sont présents, mais ne sont pas utilisables, on va dire. Mais ça n'empêche pas l'application de fonctionner. Ce qui est plutôt sympa. Du coup, on n'a vraiment qu'un seul package à déployer. Et c'est lorsque l'on va arriver sur la plateforme au runtime que l'on va pouvoir tester si j'ai tel ou tel SDK d'extension.
Alors, comment ça va marcher?
Alors, comment ça va marcher? Eh bien, on va... Alors, la différence par rapport à ceux qui font du développement sur Windows Phone et Windows 8, sur Windows Phone 8, pardon, c'est que sur cette version-là, on mettait ce qu'on appelle des DS Define, des directives de compilation, et c'était à la compilation que l'on allait générer un package spécial pour Windows Mobile ou spécial pour, pour Windows Phone, pardon, et spécial pour application Store. Aujourd'hui, on change de système, ne serait-ce que pour pouvoir justement embarquer ces extensions et avoir qu'un seul package au final, eh bien on va faire ça au runtime. C'est-à-dire qu'au runtime, on va demander à l'application si eh bien, il y a telle ou telle capacité qui sont présentes lorsque j'exécute. Et donc ici, tu vois que sur mon écran là, sur le PowerPoint, eh bien on a par exemple le fait de savoir, de demander en tout cas si je suis, si le bouton, s'il y a des boutons hardware qui sont présents ou pas. Et si jamais j'ai ces boutons, eh bien je peux interagir avec le bouton de la caméra.
D'accord. En fait, c'est un peu comme de la réflexion, c'est-à-dire qu'on regarde à l'exécution si l'API est présente ou pas. Mais l'intérêt de l'extension, c'est que finalement, contrairement à de la réflexion, je vais pouvoir directement utiliser avec l'extension l'API comme si elle était présente directement dans mon code quand je suis en train de le créer, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique que de la réflexion classique.
Exactement. Alors le coût, évidemment on parle de réflexion, donc il y a un coût, mais sachez que ces choses-là, en général, on ne fait pas ça dans une boucle sur des milliers d'éléments. On fait ça au démarrage, on fait ça juste avant de prendre une photo. Donc il y a un coût qui est extrêmement minime, qui est dû à la réflexion classique, mais qui est négligeable par rapport à ce qu'on va faire derrière. Voilà. Alors, juste une petite démo de comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai déjà un projet que j'ai déjà ouvert pour vous, qui est donc Adaptative Code, et j'ai exactement ce morceau de code-là, donc pour qu'on le voie bien, je vais revenir à la ligne ici. Et ici, j'ai cette fameuse méthode qui va me demander si j'ai les options d'une caméra. Okay. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'au départ, quand j'ai rajouté mes références, ici, tu vois que j'ai rajouté eh bien, une extension pour le bureau. Mm-hmm. Okay. Je peux aussi, si je veux rajouter d'autres extensions, donc ici je vais dans Universal Windows et dans Extensions, et ici je peux rajouter des extensions pour IoT, des extensions pour mobile, des extensions pour Surface Hub.
Donc le Team Extension c'est Surface Hub. Voilà. D'accord, ok, parfait. Il n'y a pas Xbox encore.
Il n'y a pas encore Xbox, ça va arriver. Ça va arriver, on l'attend avec impatience. Voilà, donc ce que je vais faire ici, je vais lancer mon code. Donc là, je suis sur... Alors, je vais d'abord passer sur ma machine. Donc, local machine. Et je vais lancer tout ça. Et vous allez voir que j'ai mis un point d'arrêt pour qu'on puisse passer dedans. Donc ici, j'ai mon application. Donc vraiment très simple. Je prends juste... Je mets ici un titre. Donc moi. Et je prends une photo. Ici. Donc là, je passe sur mon point d'arrêt. Évidemment, l'API est présente. Et je montre donc ici cette fameuse... cette fameuse boîte de dialogue dans laquelle je peux rajouter de la lumière. C'est un contrôle qui est tout fait, vous n'avez rien à faire. Il faut juste l'appeler pour que ça s'affiche avec l'exposition. Bref, je peux tout régler comme je veux et je peux prendre une photo. Voilà, il faut que je clique dessus. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais lancer la même application sur téléphone. Donc je vais mettre ça sur mon émulateur. Ok, je relance mon code. Ok, donc là, mon émulateur est déjà lancé, ça c'est bon. Donc du coup, ça va plus vite. Donc là, je rajoute ici quelque chose. Je clique sur le bouton. Donc le même code, on est bien d'accord. Et ici, tu vois que je ne passe pas dans cette portion de code parce que je n'ai pas cette API présente. Et donc là, je prends directement la photo en fait. Ok.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est bien.
Donc on teste, on utilise l'API si elle est disponible. Et puis sinon, on propose une autre alternative.
Exactement.
Si l'API n'est pas présente sur la plateforme cible.
Allez, on enchaîne. Donc la démo, elle est faite, et plutôt bien faite. on va parler vite fait des outils de développement pour terminer. Globalement, eh bien, les éditions de Visual Studio 2015, alors pour la faire très simple, il y a trois versions de Visual Studio 2015. La version entreprise et professionnelle qui sont vraiment destinées aux entreprises. La version entreprise est plus étoffée que la version professionnelle où on a tout ce qui est diagramme d'architecture, tout ce qui est diagnostic, ALM et intégration continue.
Test de charge. Ouais,
test de charge et compagnie. La version professionnelle, eh bien, un petit peu moins. Et la version community qui est équivalente à la version professionnelle mais qui est destinée à un usage plus personnel, on va dire, quand vous travaillez à la maison. Vous pouvez profiter de toute la puissance de Visual Studio avec une version qui est gratuite. Et qui n'est pas limité, ce qui est plutôt faire.
En fait, c'est vraiment l'équivalent de la version professionnelle. Mm. Voilà, c'est juste après du licensing, c'est fait pour les indépendants et on va dire ceux qui travaillent sur de l'open source et la recherche.
Voilà. Donc vraiment, profitez-en, c'est gratos. Quoi.
C'est gratuit. On peut installer tous les plugins.
Exactement. Voilà. En passant, n'oubliez pas, je me suis fait avoir, je le dis, hein, voilà. N'oubliez pas de débloquer le mode développeur, que ce soit sur votre device Windows 10 mobile, ou sur votre Windows 10 bureau. Donc n'oubliez pas de débloquer ce mode-là, sinon vous n'allez pas pouvoir déployer vos applications en local.
C'est ballot.
Ce qui serait ballot. Voilà, donc c'est dit au moins. Donc OK. Et après, quelle plateforme pour développer? Donc évidemment, Windows 10.
On ne peut que vous recommander Windows 10.
Voilà, c'est ça, avec Visual Studio 2015. Mais vous pouvez toujours développer sur Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2. Sauf que, bah, évidemment, il y a quelques...
Du grabuge,
un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, le designer ne fonctionne pas, puisque pour fonctionner, le designer lui réinterprète le code en partie. Donc, si tu n'es pas sur Windows 10, bah, forcément, ça ne fonctionne pas. Et lorsque vous allez lancer votre application, il va falloir se connecter soit en remote desktop sur un vrai Windows 10, ou alors sur un device Windows Mobile 10 qui tourne derrière. Donc, vous pouvez toujours travailler sur Windows 8.1, mais vraiment, c'est juste pour dire que ça fonctionne, il vaut mieux passer sur du Windows 10. Hein.
C'est dit.
C'est dit. Et enfin, une dernière ressource qui est très importante, qui est vraiment votre portail d'entrée sur le monde du développement UWP, c'est dev.windows.com, où vous allez pouvoir accéder directement à votre dashboard, à la documentation, au sample, à tout ce qui est forum et compagnie.
Et y compris à l'accès aux différents bridges qu'on a annoncés, si vous souhaitez vous y mettre également.
Exactement. Ceci conclut cette session d'introduction sur le développement des applications universelles. On va enchaîner d'ici quelques instants sur les prochains modules où on va détailler chacune un petit peu tout ce qu'on a vu pendant cette petite heure. Et on vous dit à tout de suite pour le deuxième chapitre. Merci Jean-Sébastien.
Et bien merci et à bientôt.
Et à bientôt.